Bonjour, c'est avec plaisir que nous vous présentons le point sur le diabète, le balado où l'on se penche sur les derniers avancées en matière de pratiques exemplaires dans le domaine des soins du diabète personnalisé. Je m'appelle Elissa Youni, je suis endocrinologue et je serai votre hôte. Pour m'accompagner, je veux compter sur Dr. Carl Fournier, un médecin de famille de Montréal et professeur adjoint à l'Université de Montréal. Il est un expert en matière de formation continue depuis plus que 35 ans. Aujourd'hui, nous parlerons de prise en charge du diabète chez les personnes âgées en contexte des soins primaires. En contexte de soins primaires, de quelle manière vos priorités et votre approche générale de prise en charge du diabète de type 2 changent-elles lorsque le patient est âgé par rapport à un patient plus jeune?
Bien, chez un patient âgé, je vais être beaucoup plus prudent au niveau de l'initiation des insulines, l'initiation de médicaments qui vont risquer d'avoir de l'hypoglycémie. Donc, je vais être moins agressif. Chez les patients plus jeunes, je vais être un peu plus interventionniste. Je vais probablement être un peu plus strict également au niveau des maîtrises du diabète. Donc, je vais avoir des objectifs qui vont être un peu plus serrés. Évidemment, chez les personnes âgées, il y a des difficultés au niveau des comorbidités là, des patients. Donc, ils ont souvent des problèmes d'insuffisance rénale. Ils ont souvent des comorbidités qui sont déjà présentes. Ils ont souvent, malheureusement, déjà eu des problèmes cardiovasculaires. Ils ont déjà eu des événements là, qui ont déjà fait qu'ils ont déjà une fragilité qui est augmentée. Donc, chez ces patients-là, je vais être beaucoup moins agressif et mes objectifs vont souvent être un peu moins stricts que chez les patients plus jeunes.
Excellent, c'est ça. La première chose que je vois, moi, quand un patient âgé rentre dans ma clinique, c'est comment il se comporte. Est-ce que c'est un patient qui est plus fragile? Est-ce que c'est un patient qui vient avec de l'aide? Ça peut me donner une idée à qui je fais affaire, puis c'est quoi les choses. Donc, si vous permettez, comment faites-vous pour déterminer les cibles glycéniques appropriées et les ajuster pour un patient âgé qui est frêle, atteint de diabète de type 2?
Alors, justement, comme je le mentionnais il y a deux secondes, chez les patients diabétiques âgés, frères en particulier, je vais être beaucoup plus souple au niveau de l'atteinte des cibles, au niveau, par exemple, de l'A1C. Je vais tolérer des A1C qui vont être entre 7,5 jusqu'à 8,5 assez facilement. Souvent, comme truc mnémotechnique, j'utilise l'âge du patient, je le divise par 10 et j'ai ma cible de glycémie. Donc, un patient de 80 ans, je vais viser, par exemple, 8,0 d'hémoglobine glyquée. Évidemment, tout est à interpréter en fonction de la fragilité des patients et ce n'est pas seulement qu'en fonction de l'âge. On a des patients de 80 ans qui sont plus en forme que des patients de 65 ans. Alors, c'est pour ça que j'aimerais bien que vous mentionniez la fragilité du patient plus que l'âge, parce que c'est ce point-là, justement, qui va être déterminant dans mon choix d'être agressif ou non avec le patient. Donc, un patient frêle qui a des risques de chute, qui a déjà des difficultés à se mobiliser, je vais tout faire pour essayer d'éviter qu'il ait des hypos pour justement pas faire en sorte qu'il ait des risques d'avoir des fractures ou des complications reliées à son diabète si je le traite de façon trop intensive.
Excellent. Pour les professionnels qui nous écoutent, moi, j'utilise encore l'échelle de fragilité dont vous savez. Ça peut nous guider. Il y a des guidelines encore là-dessus pour ceux qui ne sont pas à l'aise de savoir quelle cible choisir pour les patients. Donc, vraiment, la fonctionnalité du patient, l'état de fragilité ou non, ça peut dicter notre cible glycémique. Donc, quelles considérations pratiques ou caractéristiques du patient influencent le plus votre prise de décision dans ce matière-là?
Bien, on a parlé de la fragilité. Moi, je vous dirais, c'est probablement l'élément le plus important et pas loin derrière les risques d'hypoglycémie. Les hypoglycémies sont souvent un problème chez les personnes âgées. Ça peut être responsable de plusieurs complications, ça peut amener des problèmes cognitifs, ça peut amener des problèmes cardiovasculaires, ça les met plus à risque de complications de la maladie. Donc, je vous dirais que ces deux éléments-là, là, la fragilité, l'hypoglycémie, là, vont être très importants quand je vais considérer la maîtrise et l'agressivité avec laquelle je dois traiter ces patients-là.
Excellente réponse. Je pense que c'est un point très, très, très important. Un patient de 80 ans qui fait de marathon encore, là, on ne va pas le traiter comme un patient de 60 ans qui marche sur une marchette. Donc, la fonctionnalité et l'hypoglycémie qui est les facteurs limitants très, très importants dans la prise de décision. Donc, l'hypoglycémie est un facteur important dans la prise en charge du diabète, en particulier avec un traitement par insuline. Pourquoi pourquoi ce facteur est-il encore plus important dans la prise en charge des patients âgés?
Bien, les patients âgés sont des patients qui sont plus à risque des hypoglycémies. Souvent, les personnes âgées ne vont pas nécessairement être capables même de sentir les hypoglycémies. Ils ne les verront pas arriver. Donc, il faut prendre le temps de leur expliquer la façon de les détecter et évidemment la façon de les corriger. Et les patients âgés sont souvent plus à risque avec certains types de molécules, donc en particulier lorsqu'on a commencé l'insuline. Et si on a encore des sulfonylurées qui sont dans les médicaments qu'on utilise en combinaison, il faudrait être très prudent. Puis je tente tout mon possible pour enlever les sulfonylurées lorsque je commence l'insuline basale pour éviter justement cette problématique-là. L'objectif principal que j'ai, c'est d'éviter des chutes, d'éviter la détérioration de l'état de santé du patient sur le plan cognitif, par exemple. Et on le sait, plus on expose les patients à des hypoglycémies, plus il peut y avoir des risques de complications au niveau macrovasculaire et même des cas de mortalité qui ont été rapportés. Donc, c'est tous des éléments importants à tenir compte lorsqu'on veut traiter les patients diabétiques de façon sécuritaire. Il faut absolument éviter l'hypoglycémie.
Quelles stratégies pratiques peuvent être intégrées aux soins primaires pour réduire ce risque en amont?
Au niveau des soins primaires, je vous dirais, ce qui est important, c'est de débuter tranquillement et de tenir compte des caractéristiques de chacun des patients, en particulier des patients frêles. Donc, par exemple, il y a des insulines basales qui sont un peu plus sécuritaires parce qu'elles ont moins d'hypoglycémie. Ça va être vers celles-là qu'on va tendre à amener notre patient. Donc, on va choisir celles qui sont plus sécuritaires, qui ont moins de risques d'hypoglycémie. On va titrer lentement les augmentations de doses d'insuline chez ces patients-là. On va prendre le temps d'y aller tranquillement pour éviter justement qu'ils aient des hypoglycémies. Et on va également être encore plus prudent chez les patients qui ont des risques à cause de leur état de fragilité à faire des chutes. Donc, c'est des caractéristiques importantes à tenir en ligne de compte.
Le portrait des options du traitement par insuline basale est en constante évolution. En contexte de soins primaires, comment cet éventail d'options se répercute-t-il sur votre pratique?
L'éventail d'insuline disponible a beaucoup changé avec les années. J'ai eu l'occasion de travailler au tout début de ma pratique avec les insulines de porc et les insulines humaines. Donc, ça vous donne une idée un peu de mon ancienneté. Mais évidemment, actuellement, on a une panoplie de nouvelles insulines et j'en suis très content. Au niveau des insulines basales en particulier, c'est souvent celle-là que je vais utiliser en premier chez les patients âgés et je vais utiliser à l'occasion des combinaisons avec une insuline préprandiale. Mais la plupart du temps, c'est avec une insuline basale, j'arrive à mes fins, j'arrive à mes objectifs, je vais me limiter à ça. Et comme je le mentionnais tantôt, je privilégie surtout celle de la deuxième génération. Les analogues de la deuxième génération sont souvent sécuritaires, peu d'hypoglycémie, permettent de peut-être les commencer à différents moments dans la journée. Il y a certains types d'insuline qu'on peut donner même le soir, d'autres qu'on peut donner le matin. Donc, il y a une flexibilité. On peut aussi, des fois, avoir une plus de flexibilité au niveau de l'heure à laquelle les insulines vont être prises. Et on va pouvoir justement titrer lentement, comme je mentionnais précédemment, là, lorsque je vais augmenter mes doses, je vais y aller par étape, tranquillement. Je vais suivre la plupart du temps les recommandations des fabricants, mais à l'occasion, je vais même les adapter et aller encore plus lentement pour être certain que je n'ai pas de problème.
Y a-t-il des défis auxquels vous faites face lors de la sélection, de l'instauration et de la gestion du traitement par insuline basale chez ces patients âgés?
Bien, il y a différents points à tenir en ligne de compte. Évidemment, le point le principal, moi, c'est l'hypoglycémie que j'essaie d'éviter. Donc, si je peux choisir un analogue qui a un profil d'hypoglycémie qui est favorable, ça sera probablement dans mes favoris. Évidemment, il y a toujours la question de couverture avec la Régie d'assurance maladie du Québec. Alors, il y a certaines insulines basales qui sont couvertes, d'autres non. Alors, évidemment, comme c'est un coût important pour les patients âgés qui souvent ont des ressources limitées au niveau financier, je vais être prudent de ce côté-là. À l'occasion, il y aura peut-être des formulaires d'exception à compléter ou des patients d'exception. Donc, si j'ai besoin d'avoir un certain type d'insuline basale qui est requis pour le patient pour lequel je veux l'initier, bien, à l'occasion, je vais avoir à compléter ces formulaires-là. Mais pour la plupart, avec les analogues qui sont ouverte, on peut se débrouiller très bien. Et en tenant compte, comme je disais, du profil du patient, est-ce qu'il est en perte d'autonomie? Est-ce qu'il peut lui-même s'administrer l'insuline? Est-ce que, par exemple, il est capable de voir les dosages facilement sur son crayon? Donc, ça peut être des éléments particuliers. Alors, c'est pour ça que j'ai avec moi des stylos pour pouvoir montrer à mes patients comment ils peuvent les manipuler, s'ils sont capables de voir les chiffres. Et je vais faire des essais avec eux là, au bureau pour essayer de les aider dans le choix. Alors, c'est tous des éléments importants là, qui, au quotidien, vont avoir un impact sur mon choix des différents types d'insuline.
On sait que le traitement par insuline, ce n'est pas le premier choix ou le choix favorable chez les médecins de famille. De quelles informations essentielles ou de quel type de soutien les médecins généralistes ont-ils besoin pour être plus confiants dans la prise en charge du traitement par insuline basale chez ces patients âgés?
Je vous dirais, c'est une question d'expérience probablement et aussi d'exposition. C'est certain que lorsque j'étais en début de pratique, j'avais moins confiance en ma capacité d'initier l'insuline. Je vous dirais que cette réalité-là, avec les années, a beaucoup changé. Les médecins de famille ont pris de plus en plus de place maintenant dans l'initiation des traitements à l'insuline. Donc, c'est pas rare maintenant de voir des médecins de famille initier l'insuline sans avoir à référer à des cliniques d'enseignement du diabète, alors que c'était la norme dans le passé. Donc, je vous dirais que d'avoir un soutien de la part soit d'un collègue ou d'une infirmière qui peut avoir un intérêt ou une formation en diabète, par exemple, pour les médecins qui seraient moins familiers, qui ont peut-être une moins large exposition là, aux patients diabétiques. Donc, d'avoir quelqu'un qui est un peu un expert local, là, c'est toujours quelque chose qui est rassurant pour un médecin qui commence, pour un médecin qui veut initier l'insuline. Donc, un des besoins, je vous dirais, c'est d'avoir, oui, de la formation sur les différents types d'insuline, mais aussi d'avoir du soutien lorsque vient le temps de commencer l'insuline avec les patients, d'avoir quelqu'un qui peut les aider, par exemple, au niveau des choix des stylos, pouvoir soutenir l'enseignement que l'on fait aux patients. Parce que, évidemment, dans une entrevue de médecin de famille, on a souvent d'autres problématiques de santé à parler. Mais lorsqu'on initie l'insuline, il y a plein d'éléments importants à mentionner. Par exemple, les sites d'injection, des gestions des hypoglycémies. Et cet enseignement-là qu'on doit faire aux patients ne peut pas se faire en une seule rencontre et ne doit pas non plus reposer uniquement sur le médecin de famille. Alors, on travaille maintenant de plus en plus en GMF avec des équipes qui comprennent des infirmières, des pharmaciens. Et ces gens-là peuvent nous aider justement dans l'initiation et dans le suivi de ces patients-là.
Effectivement, donc une équipe multidisciplinaire, comme vous venez de le mentionner, des infirmières et des pharmaciens parfois de GMF, qui pourraient être très utiles dans le suivi et l'initiation de ce type de traitement chez ces patients particulièrement à risque. Docteur Fournier, vous, comme médecin de famille, quels sont les membres de votre équipe pour lesquels vous comptez le plus et quel rôle particulier joue-t-il dans l'optimisation des soins?
Eh bien, j'ai la chance d'être en GMF depuis plusieurs années et on a mis sur pied, pas une clinique de diabète, mais on a développé une certaine expertise. Là, c'est certain que, étant moi-même impliqué beaucoup auprès d'une large clientèle de patients diabétiques, j'ai contribué beaucoup à ce que mes collègues et professionnels autour de moi soient intéressés par le diabète. Alors, j'ai la chance d'avoir une infirmière praticienne qui est avec moi, qui suit des patients diabétiques. J'ai aussi une infirmière clinicienne qui va également participer à l'enseignement des différentes techniques d'injection, qui va montrer justement la manipulation des appareils et qui va enseigner, par exemple, le monitoring en continu, qui va faire l'installation des appareils à monitoring continu qu'on peut installer chez nos patients. On a également la chance d'avoir un pharmacien qui nous aide au niveau des interactions et qui nous ramène à l'ordre lorsque les patients ont des effets secondaires ou encore ont des restrictions au niveau de l'utilisation de certaines molécules, par exemple avec les cas d'insuffisance rénale. Et évidemment, n'oublions pas notre nutritionniste qui est avec nous, qui va rencontrer nos patients et les aider dans leur modification au niveau de la diète. Donc, avec une équipe comme ça, je pense que je suis bien encadré, là, bien soutenu. Et à l'occasion, j'ai quand même autour de moi la chance d'avoir des endocrinologues qui travaillent avec moi en collaboration et qui, à l'occasion, vont justement répondre à mes questions pour les cas un peu plus compliqués. Par exemple, je n'ai pas de pompe à insuline dans ma clinique, mais lorsque j'ai affaire à ce genre de clientèle-là, par exemple, c'est plus les types 1, Là, à ce moment-là, je vais les référer dans des cliniques d'endo spécialisées et ils vont me être retournés par la suite pour le suivi et on va collaborer avec les spécialistes dans les cas plus pointus comme ça.
Excellent. Merci beaucoup, Dr. Fournier, et merci d'avoir écouté le dernier épisode du balado, Le Point sur le diabète. Nous espérons que notre discussion approfondie sur la prise en charge du diabète chez les personnes âgées en contexte de soins primaires vous a plu. Si vous avez trouvé cette discussion utile pour votre pratique clinique, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues en cliquant sur le bouton « Partager ». Et n'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur Apple Podcasts ou Spotify et rester à l'affût des prochains épisodes.